Vous le connaissez? Nous allons d'abord entendre le diacre Michael Lomax, ici présent, nous présenter la situation actuelle de l'Église orthodoxe en Belgique. Alors voilà, Patricio posait la question, pourquoi on est passé du singulier au pluriel? Mais c'est l'objet de la conférence. Ensuite, nous aurons une intervention de Mgr Johan Bonny, que je vous présenterai après la conférence du diacre Michael Lomax, que je vous présente maintenant, diacre dans l'Église orthodoxe russe, avec la responsabilité pour les relations avec les communautés chrétiennes non orthodoxes en Belgique. Michael Lomax, que vous avez entendu souvent, est de nationalité britannique. Vous êtes diplômé en langue moderne et médiévale de Cambridge et en administration des affaires de l'INSEAD. Vous avez poursuivi des études théologiques à l'Institut théologique Saint-Serge à Paris. Cadre dans une banque internationale et puis moine bénédictin novice, vous vous installez en Belgique en 1985 en tant que traducteur indépendant. Entré à l'orthodoxie en 1992, vous êtes sous-diacre en 2007 et diacre depuis 2010. Et comme vous l'avez tous compris, vous êtes le mari de la conférencière Irina Gorbunova. Voilà qui arrive. Donc, Michael, j'ai été très heureux depuis bientôt 2 ans, et surtout ces 6 derniers mois, de collaborer avec toi pour organiser cet excellent colloque que nous sommes occupés à terminer. Nous te donnons la parole, et puis je présenterai Mgr Bonny, qui est donc le seul intervenant non orthodoxe, catholique romain, comme il est bien spécifié ici, n'est-ce pas? Et je vous présenterai tout à l'heure, Mgr. Merci.
Juste me mettre ça correctement sur le... Voilà. Vous m'entendez bien?
Oui.
Voilà, voilà. OK. Les églises orthodoxes en Belgique. Je commence avec les grandes familles. Monseigneur, vous voyez une famille comme... Mais puis j'ai devant un grand problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de statistiques. Ce que j'ai pris, c'est d'abord les grandes familles. Je dis famille pour une raison spécifique que vous verrez par après. La famille la plus ancienne, je peux dire, ici en Belgique, c'est la famille russe. Dans la colonne au milieu, vous verrez là où se trouve l'évêque. Le fait que j'ai marqué 3 lieux d'évêque pour les Russes, ça a aussi sa raison, que vous verrez aussi par après. Puis il y a la famille grecque, avec le métropolite Pantelémon à Bruxelles même, la famille roumaine avec son archevêque et le métropolite, merci, Joseph à Paris. Et ces 3 grandes familles représentent plus ou moins 80% de l'orthodoxie en Belgique. Puis il y a, si je peux dire, les petites familles, les Serbes, les Bulgares, les Géorgiennes, qui ont chacune 1, 2, 3 paroisses et qui, me semble-t-il, représentent un petit peu moins de 10%. Puis il y a ce que j'appelle un petit peu salopement l'orthodoxie locale. Avec ça, je veux dire essentiellement des églises francophones qui se composent en large partie de convertis, que j'estime à peu près 10%. En fait, ils s'intègrent dans les différentes familles en haut et surtout dans la famille grecque. Critère d'inclusion, c'est toujours un petit peu toute la question de savoir qui est orthodoxe, qui ne l'est pas. Ici, j'ai pris simplement le fait de faire partie de la conférence épiscopale orthodoxe du Benelux. Ce ne sont pas les seules familles orthodoxes. Il y en a d'autres, sans présence officielle en Belgique, à ma connaissance, grecques. Ben, vous voyez grecques, je vous explique pourquoi par après. Albanaises, finlandaises, polonaises, les pays tchèques, OCA, c'est Orthodox Church of America. Voilà, je continue. Statistiques. Comme toujours avec les statistiques ecclésiales, c'est très très difficile. On m'a nommé à un chiffre de 70 à 80 000 baptisés. Je soupçonne, ce sont des chiffres qui sont d'avant la grande venue roumaine. Il se peut très bien que ce soit
invasion.
Ok. À mon avis, le meilleur chiffre, ce serait la nuit de Pâques. Combien de fidèles se trouvent à la célébration de Pâques dans les églises orthodoxes, ici en Belgique. De nouveau, franchement, c'est au pif, mais je pense que je ne suis pas très loin de la vérité. Oui? Un dimanche normal, dimanche prochain, je pense qu'on sera un tiers de ce chiffre-là. Bon. Il y a des explications. Vous vous rappelez que d'un côté, si je monte en haut, j'ai dit grec, 30%, et puis autres églises orthodoxes sans présence officielle en Belgique, grec. Ça peut paraître un petit peu étrange. Ce qu'il faut savoir, vous voyez ça sur le troisième point, les communautés grecques en Belgique, et je pense en France aussi, sont sous la juridiction du patriarcat écuménique. Alors vous allez me demander quel est ce rapport entre patriarcat écuménique et Église de Grèce. Bon, j'espère que je l'ai bien comprise parce que je sais que c'est politiquement un petit peu délicat et je me sens que je marche sur des œufs ici. Bon, l'État grec a été fondé en 1821. L'Église grecque a obtenu l'autocéphalie de Constantinople, qui en ce temps-là était dans l'Empire ottoman, en 1833-1850. Les deux dates, c'est qu'ils ont un petit peu arraché l'autocéphalie de Constantinople en 1833, et ce n'est qu'en 1850 que Constantinople a accepté la situation avec un Thomas. L'Église grecque est limitée en Grèce aux frontières grecques d'avant les guerres des Balkans, ce qui veut dire que tout le nord de la Grèce, surtout Thessalonique et autour, qui est resté dans l'Empire ottoman jusque juste avant la Première Guerre mondiale, et même quelquefois après, est sous reste sous le patriarcat écuménique. Bon, je pense qu'ils ont leurs arrangements là-bas et je ne veux pas entrer là-dedans. Ce qu'il y a, et ça c'est un point un petit peu délicat, le patriarcat écuménique réclame la juridiction sur tous les chrétiens orthodoxes en dehors des frontières officielles des églises orthodoxes, en se référant au canon 28 du 4e concile écuménique. Il faut dire que cette juridiction n'est pas acceptée par le patriarcat de Moscou, la Roumanie, je sais plus, ni par vous, ni par les autres. Et oui, ça fait certains problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le métropolite du patriarcat de Constantinople représente toutes les églises orthodoxes ici en Belgique devant le gouvernement belge. Ce qui veut dire surtout le paiement des prêtres, l'organisation de l'enseignement orthodoxe dans les écoles. C'est-à-dire, si l'église russe, si l'église roumaine peut ouvrir une nouvelle paroisse, si on veut la subvention d'État, ça doit passer par les bureaux du métropolite Pantéléon, ici à Bruxelles. Bon, il y a aussi la situation russe. Vous avez vu qu'il y avait, j'ai marqué trois endroits d'évêques. C'est parce que, avec la révolution russe, l'Église russe, en dehors de la Russie, s'est divisée en trois groupes. Il y a ce qu'on appelle l'Église synodale, souvent connue comme l'Église hors frontières. Si vous demandez, si vous prenez un taxi à la gare du Midi et vous demandez l'église grecque, pardon, l'église russe, on va vous prendre à l'église rue Avenue de Fresnes, oui, qui est en fait église aux frontières. C'est une église qui se regroupait dans les années 20. Une grande partie des évêques qui avait quitté la Russie, c'est en Yougoslavie, je pense que ça s'est reconstitué. C'est là, par exemple, que toute la famille impériale s'est regroupée là-dedans. Puis, dans les années 30, les Russes de la... surtout les Russes qui étaient à Paris et en Belgique, qui étaient restés fidèles encore au patriarcat de Moscou, on dit « ça ne va plus ». On ne sait pas où on en est. Il n'y a plus de patriarche. C'est le système communiste. On se sent très très mal à l'aise avec ceux qui sont en charge de l'Église russe. Ils se sont séparés, ils se sont mis temporairement sous le patriarcat de Constantinople. Chez nous, on parle très souvent de rue d'arrue. C'est un petit peu le terme usuel dont on s'en sert. Et il y a ceux qui sont restés fidèles au patriarcat de Moscou. En fait, ici, par exemple, sur Bruxelles, l'église synodale a deux églises. L'exarchat de tradition russe sur le patriarcat de Constantinople a aussi deux, et le patriarcat de Moscou a trois. Donc un assez grand, assez nouveau qu'on a acheté dans la rue Lepage. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Bon, vous avez vu dans mon toute première slide l'orthodoxie locale, ça veut dire les convertis. D'où est-ce que ça vient? Ça vient plus ou moins de trois directions qui quelquefois s'entrecoupent. Il y avait donc l'orthodoxie occidentale, au moins comme ça affecte la Belgique, est un petit peu venue de la France, si je peux dire. Il y avait, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la rencontre des Français qui découvrent l'orthodoxie, les Russes orthodoxes émigrés en France, qui désire faire connaître l'orthodoxie aux Français. Très lié avec ce mouvement est ce qu'on appelle ECOF, Église catholique orthodoxe de France, où c'est une église où on essaie un petit peu de faire les mariages des deux traditions, de faire une sorte d'orthodoxie occidentale avec une liturgie, ce qu'on appelle la liturgie de Gaulle, qui, dit-on, et la liturgie comment le célébrait avant la division des églises. Il y en a qui l'aiment, l'autre qui n'aime pas. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans. une église qui était d'abord sous le patriarcat de Moscou, puis il y a eu des petits problèmes, puis sous l'église aux frontières. Là aussi, après un certain moment, ça n'a pas marché. Puis sous le patriarcat de Roumanie, jusque, je pense, en 1992. Puis à cause de certaines irrégularités et simplement un évêque qui prenait un petit peu trop de liberté, le patriarcat de Roumanie s'en est séparé. Et puis ce groupe s'est un petit peu désintégré. Une grande partie est rentrée sous les homophores des différentes, dans les différentes familles orthodoxes. En Belgique, il y avait surtout une communauté dans les années 80 qui était assez forte, qui est passée directement sous l'homophore du patriarcat écuménique, qui est la paroisse de Saint-Sulouane et Martin de Tours, dont je pense qu'il y a des membres ici, et qui est la communauté, si je peux dire, c'est la communauté francophone la plus grande ici en Belgique. Il y a aussi l'église de Saint-Côme et d'Amiens, qui vient plus ou moins dans le même mouvement, mais elle est dans l'exarchat de tradition russe sur le patriarcat écuménique. Puis il y a une deuxième, ça vient aussi d'une autre direction, c'est ce qu'on appelle la mission russe. Je pense que le nom de l'archevêque Vassili Krivoshen, vous êtes déjà connu, on en a déjà parlé. Et lui, un petit peu comme notre ami en Angleterre, comment il s'appelle, Antoine de Soroge, il a pris l'initiative de lancer des paroisses locales. Et il a ordonné 6 prêtres qu'on appelait un petit peu méchamment « the Basel Boys ça, sous le patriarcat de Moscou. Maintenant, il n'en reste qu'un en fonction, un qui, bon, un Alzheimer avancé. Bon, pour être honnête, c'est assez en déclin. Et une troisième direction que je mentionnais, ce sont les atonites. Ce n'est pas vraiment un groupe séparé, mais ce sont des gens, comme nos deux orateurs d'hier soir qui nous ont montré ce diapo sur l'homotatos, ce sont des Belges individus qui se sont retrouvés au Montatos pour une raison ou l'autre, qui ont imbibé beaucoup de ces traditions, et bah, je me compte un petit peu entre ces deux-là, j'étais moi-même très très pris par cette spiritualité, et on forme une sorte de sous-groupe officiel. Voilà. Bon, histoire. Très vite, les grandes étapes, 1862 à 1917, bon, c'est la présence permanente depuis 1862 que nous célébrons avec cette conférence. Ça, c'est la présence, on était d'abord la chapelle, comment ça s'appelle, la chapelle de la représentation impériale ici à Bruxelles, auprès du royaume de Belgique, d'abord dans la rue de Paris-Rome, et puis rue des Chevaliers, où on est dans la même église depuis à peu près 1876. Dans cette même période, première église grecque à Anvers. Bon, tout ça était assez petite flamme. Puis 1917, révolution russe, grande, massive arrivée des réfugiés russes. Des églises fondées, au résultat, Anvers, Liège, Louvain, dans Charleroi. Bon, ce qu'il faut dire, c'est tous les gens riches allaient à Paris. C'était souvent chez nous les pauvres. Surtout les soldats qui sont venus avec le général Wrangel, Et bon, ils sont venus plus ou moins dans ce qu'ils portaient sur eux, et une grande partie sont partis dans les mines. Ce qui fait que deux des plus grandes communautés orthodoxes entre les deux guerres, c'était les communautés à Charleroi et à Liège. Et à Charleroi, on vous montre en son soir, il n'y avait pas un sou, il était vraiment pauvre. En son soir qu'on a fait avec des, comment dit en français, des tins.
Des boîtes à conserve.
Il y avait des boîtes à conserve. Vraiment parce qu'il n'y avait pas d'autre. Bon. Après la guerre, commence l'arrivée en masse des Grecs, surtout pour des raisons économiques, je pense aussi dans les mines. Les communautés russes déclinent, bon, simplement il y a le fait que les gens devenaient plus âgés, il y avait aussi une certaine émigration en Amérique, plusieurs paroisses cessent d'exister, les orthodoxes grecs deviennent plus nombreux. 1969, création de l'archevêché de Belgique sous le patriarcat œcuménique, dont le métropolite depuis 1982, c'est Monseigneur Panteleimon, connu de tous. Reconnaissance de l'orthodoxie en tant que culte officiel 1985. Bon, j'ai mentionné déjà la figure de Monseigneur Vassili Krivoshen, qui était vraiment un gros numéro. Bon, à sa mort 1985, la communauté russe était vraiment, si je peux dire, en déclin. Ce qui est tout d'un coup, 1985, le début de l'arrivée des Polonais, qui venaient, comme vous savez, plus ou moins comme maçons, comme femmes de ménage, etc. Bon, ce n'est pas toujours très légal, mais il semble que l'État belge n'a pas regardé de trop près. Et comme vous savez, les orthodoxes, les Polonais des cantons de l'Est de la Pologne, sont orthodoxes et le sont souvent assez farouchement. Et comme il n'y avait pas d'église polonaise orthodoxe sur Bruxelles, ils sont venus au patriarcat de Moscou. La liturgie en Pologne et en slavon, c'est cette ancienne langue russe qu'on utilise encore, et ça fait que encore aujourd'hui, je dirais entre 20 et 30% de la population, au moins chez le patriarcat de Moscou, est d'origine polonaise. Des gens très simples, mais très très fidèles. Voilà. Puis, nouveau tournant, c'est à partir de 1991, avec la désagrégation de l'ancienne Union soviétique, à l'arrivée massive de réfugiés politico-économiques des nouveaux pays indépendants de l'ancienne URSS. Je me souviens, j'étais déjà dans l'église orthodoxe à ce moment-là, on était là le dimanche, on voyait 3-4 gars en blouson noir, visiblement assez perdus, sachant tout juste faire un signe de croix. Et on savait très bien que c'était des réfugiés orthodoxes. On a fait, en fait, un assez beau travail avec eux. Il y avait surtout un prêtre chez nous, le père Pavel...
Je vous salue.
Qui a fait un travail magnifique avec ces gens-là. Père Pavel, bravo. Ce qui a fait qu'on a commence à rouvrir les églises russes à Anvers, à Leuven, Charleroi, Mons, Liège et d'autres. Étape finale, 2007, accession de la Roumanie à l'Union européenne, réorganisation de la présence roumaine ici sur Bruxelles et encore une arrivée assez massive. Je pense que...
93
déjà. Ok, je me laisse corriger. Mais en tout cas, je pense que ce sont les Roumains qui ont les églises les plus pleines ici à Bruxelles. Voilà. Okay. Ça, c'est moi. Ça, je prends responsabilité. Les défis et les dangers de l'orthodoxie ici en Belgique. Santé, sainteté, salinité. Salinité parce que ça vient de sel et le fait d'être le sel de la terre. Je pense, bon, ça c'est un petit peu mon opinion privée, toute la question est l'appel missionnaire. C'est normalement une église, pour fonctionner bien, doit avoir cette ouverture missionnaire. Être là pour ses membres, mais aussi quelque part pour le monde. Quand vous avez des... Nous, surtout dans l'église russe, on a eu ce déluge des réfugiés. Bon, c'était bien, on a bien travaillé avec, mais maintenant la question, quoi après? Il y a toute la question de la deuxième génération, est-ce qu'elle va garder la foi? Est-ce qu'elle va disparaître? Aussi, un défi, un danger que peut-être, c'est les questions d'équilibre social. Si vous avez, vous avez certaines églises qui ont plus ou moins tout ce que vous trouverez normalement dans la société, il y a d'autres qui sont peut-être moins équilibrées. Par exemple, dans l'église, par exemple, je prends l'église russe, là, il y a peut-être une couche intellectuelle est relativement mince, ce qui est peut-être un déséquilibre. Il y a aussi une question qui est très importante et assez délicate, c'est l'utilisation de l'Église pour des raisons identitaires. C'est-à-dire, on vient à l'Église, oui parce qu'on est chrétien, mais aussi parce qu'on est russe. Et le danger de l'utilisation des structures de l'Église pour des raisons identitaires. Peut-être on peut y revenir après avec des questions. Question de niveau d'éducation des clergés. Bah, dans l'Église russe, quelquefois on a dû faire un petit peu au vite-vite, comme en Russie. Et bon, quelquefois il y a des trous. Autre question, c'est que on a très souvent des prêtres assez jeunes, qui sont de bons prêtres, mais pour, surtout dans l'orthodoxie, pour avoir un bon équilibre, il faut des plus âgés. Des hommes plus sages, qui ont une certaine maturité spirituelle. Il y en a, mais on serait heureux de n'avoir un ou deux de plus. Aussi la question de quel pourcentage du peuple c'est vraiment donner raison de l'espérance qui est en vous, c'est-à-dire qui sait vraiment parler de sa foi, témoigner de sa foi. Question des convertis locaux, c'est pas toujours facile d'être converti local, je sais moi-même dans l'église orthodoxe. Il y a certaines barrières culturelles qui sont assez élevées, et oui, et ça c'est une grande question, où se positionne-t-on vis-à-vis des autres communautés chrétiennes non orthodoxes? Là, je veux dire, à mon avis, il y a une ambiguïté, il y a une sorte de grand non-dit là-dessus. En fait, il y a d'un côté, il y a ceux qui diraient presque que le catholicisme, c'est de l'hérésie, et qui vont vous citer tout de suite toutes les raisons pourquoi on n'est pas catholique. Il y a d'autres qui disent, bon, ça ne sert à rien, c'est sûrement culturel. Mais quelque part, je pense qu'il faudrait de notre côté avoir un discours un petit peu plus clair avec ça. La question finalement, pour nous orthodoxes, ok, nous sommes ici dans le pays, quel rôle le Seigneur a-t-il pour nous dans le christianisme, dans ce pays? À mon avis, c'est un débat qu'on n'a pas eu encore ou pas encore eu suffisamment entre nous. Bon, on a passé 20 ans à digérer cet afflux qu'on a eu. Les Russes d'abord, et les Romains par après, et les Grecs aussi, peut-être d'une autre manière. Il y a aussi une méconnaissance réciproque. Et là, je veux dire une chose qui est très très drôle. Mon titre officiel, c'est représentant de l'Église orthodoxe russe envers les communautés non orthodoxes. En fait, je pense que je passe plus de temps à expliquer le catholicisme aux orthodoxes et pour essayer de brosser toutes les, quelquefois des idées stupides, toutes les vieilles histoires, que dans l'autre sens. Une question que je vais poser, à mes frères catholiques, de qui en Belgique les autorités catholiques romaines prennent-elles leurs informations sur l'orthodoxie, sur tous les structures, les rapports structurés? Je vais pas donner des noms. Les noms de ceux qui sont invités, par exemple, à la sous-commission de la conférence d'évêques ou le CIB, je me pose la question s'ils sont vraiment représentatifs de l'orthodoxie d'aujourd'hui en Belgique. Je pose la question, et voilà la grande question pour laquelle quelques-uns vont me fusiller, mais je prends le risque. En anglais, on dit the $64,000 question. Je vois énormément de catholiques qui s'intéressent à la spiritualité orthodoxe. Il y a comme un appel. Toute la question, c'est de savoir si notre spiritualité orthodoxe est transportable dans d'autres structures. Est-ce qu'on peut avoir une spiritualité orthodoxe et être membre fidèle de l'Église catholique ou même d'une église protestante ou anglicane? Bon, je laisse la question ouverte. Si je parle plus là-dessus, il y en aura qui vont me fusiller. Bon, là, je finis. Je pense que j'ai dit assez. On peut revenir après. Ok. Voilà.